franceinter.fr.
Les canyons sous-marins, des refuges à peine découverts et déjà à protéger, donc aujourd'hui à la une de la science. Et pour en parler, Lénaïck Menot, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes cadre de recherche sur les environnements profonds à l'IFREMER. Vous faites partie du réseau international INCISE et vous présentez donc cette semaine les résultats d'une grande étude sur l'état des canyons sous-marins autour du globe. Alors, on connaît les fosses sous-marines, les canyons un peu moins. Quelle est la différence entre les deux exactement?
Alors, les canyons sous-marins, ce sont des grandes vallées qu'on trouve à des profondeurs comprises entre 200 et 3000 mètres, 4000 mètres. Qui se distinguent des fosses qui, elles, vont descendre de 4000 mètres plutôt jusqu'à 10 000.
D'accord.
Comment ça se fait, Lénaïck Menot, qu'on découvre tardivement l'importance des canyons pour la biodiversité marine?
Alors, on fait sans cesse des découvertes en environnement profond. C'est un environnement qui est difficile d'accès et riche en découvertes chaque décennie, je dirais, à son lot de grandes découvertes. Donc les canyons, on connaissait leur existence depuis longtemps. On a découvert en particulier aussi grâce au développement de nouvelles technologies comme celle des sous-marins ou des engins autonomes profonds. On a découvert que effectivement c'était des environnements très complexes et très riche, diversifié d'un point de vue biologique.
Alors, vous travaillez dans les canyons du golfe de Gascogne. Que peut-on trouver quand on fouille les canyons, les 300 canyons du golfe de Gascogne et qu'on plonge en dessous de 200 mètres, c'est ça?
En dessous de 200 mètres, c'est ça, oui. Alors, on va trouver une succession d'habitats différents, des récifs de coraux qui sont composés de deux espèces principalement, l'Ophelia et Madrepora, qui sont fixés sur des substrats durs, d'autres types de coraux qui forment pas des récifs mais qui sont des colonies de gorgones ou de coraux noirs, des coraux sur des substrats meubles également, des grands champs d'anémones de mer ou de concombres de mer. Donc une multitude d'habitats différents qui se croisent dans ces canyons.
C'est une faune qu'on ne trouve que dans les canyons?
Pas nécessairement que dans les canyons, mais la particularité des canyons, c'est que d'une part, elle est généralement plus abondante, et d'autre part, on trouve dans un espace finalement assez limité une grande diversité de ces habitats, qui autrement sont assez rares.
Alors Lénaïck Menot, justement, avec cette étude là que vous co-signez avec vos collègues d'ailleurs du monde entier, vous dites qu'à peine finalement on découvre ces canyons, qu'il faut déjà les protéger. Ils sont menacés réellement?
Alors ils sont menacés au même titre que le reste de l'environnement profond par le développement des activités humaines, l'exploitation des ressources en particulier, que ce soit les ressources naturelles vivantes pour la pêche, ou bien les ressources minérales, ou bien les ressources pétrolières. Une particularité des canyons, c'est quand même comme dans la mesure où ce sont des conduites depuis la côte vers le fond des océans, ce sont des endroits où vont se concentrer certains des polluants, par exemple les déchets qui sont rejetés en mer. Certains coulent, et pour ceux qui coulent, on en retrouve beaucoup dans ces canyons.
On pourrait penser que la faune des canyons est protégée de la pêche en milieu profond, vu qu'elle est au fond d'une rigole. Au final, c'est pas le cas?
Alors, c'est le cas en partie. C'est le cas, effectivement, sur les flancs les plus abrupts des canyons. Mais en bordure des canyons, il peut y avoir une pêche assez intensive qui aura des impacts indirect. Alors ça a été montré par des collègues espagnols en Méditerranée, où le chalutage à la périphérie des canyons remet en suspension des sédiments qui sédimentent dans les canyons et vont perturber l'environnement du canyon.
Donc l'interdiction du chalutage profond en Europe qui est rentrée en vigueur à la mi-janvier est une bonne nouvelle pour les canyons en Europe?
Une bonne nouvelle pour les canyons en Europe, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres actions en cours qui visent à protéger la biodiversité de ces environnements?
Alors il y a des actions qui existaient déjà de gestion de la pêche par les pêcheurs eux-mêmes, par exemple sur le autour du canyon du Cap Breton. Et puis il y a des aires marines protégées. Alors il y en a encore assez peu. 10% des canyons au niveau mondial serait inclus dans une aire marine protégée. En France, il y a une initiative en cours de désignation de d'habitats, donc des habitats, des sites Natura 2000, pour la préservation des récifs en environnement profond, et en particulier dans les canyons du Golfe de Gascogne et de Méditerranée.
Lorsque justement vous envoyez vos robots dans ces canyons, quel type de pollution est-ce que vous observez exactement, Lénaïque Menot? Qu'est-ce qu'on retrouve alors dans ces environnements?
Alors, la pollution qu'on voit, ce sont beaucoup de déchets, et parmi ces déchets, beaucoup de plastique. Ce sont les plastiques qui dominent, en particulier au large des grands fleuves. Pour le peuple de Gascogne, c'est au large de la Loire et de la Gironde. On retrouve également des déchets qui sont liés aux activités de pêche, donc des filets, des câbles, et on retrouve des bouteilles de verre qui, elles, probablement viennent des activités maritimes. Même s'il y a maintenant des interdictions de rejet en mer, ces interdictions sont assez récentes, et donc on trouve des déchets qui viennent en particulier le long des grandes lignes de transport maritime.
Allez, une dernière question, Axel.
Oui, à part le golfe de Gascogne, sur les côtes françaises, où est-ce qu'on trouve d'autres canyons?
En Méditerranée, on trouve en Méditerranée un certain nombre de canyons. Assez différents les uns des autres, hein, comme dans le golfe de Gascogne d'ailleurs, on peut quasiment considérer parfois que chaque canyon est unique. Des canyons qui sont connectés à une rivière telle que celui du Var, à d'autres canyons qui sont complètement déconnectés de la côte.
Merci beaucoup Lénaïque Menot, et puis c'était une occasion aussi pour nous de faire mieux connaissance avec ces écosystèmes qu'on connaît peut-être un petit peu moins bien et qui méritent toute notre attention et donc des mesures de protection, puisque c'est ce que vous dites en substance, hein, dans cette publication avec vos confrères. Merci beaucoup à vous, et Axel, on se retrouve
demain
vendredi. Allez, en bref,
au revoir.
Dans le reste de l'actualité scientifique, la marche pour la science aux États-Unis et dans le monde qui va défiler le 22 avril, suite à la suppression d'archives scientifiques de sites gouvernementaux et l'imposition d'un droit de regard politique sur la publication scientifique publique, une marche pour la science s'organise. Annoncez donc, retenez la date pour le 22 avril, des dizaines de manifestations sont d'ores et déjà prévues à travers les États-Unis et le reste du monde. Les organisateurs appellent à mettre la science au service du bien commun et à l'élaboration de politiques basées sur l'intérêt public. Des marches seront prévues à Paris également, nous vous tiendrons bien évidemment informés. Connaissez-vous le plus gros fruit du règne végétal? Eh bien, il s'agit du cocofès, et il est en voie de disparition. Officiellement dénommé coco de mer, ce fruit, surnommé d'après sa ressemblance avec notre postérieur, pourrait bien disparaître selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui compte à peine 8000 cocotiers restants. Cette noix de plusieurs dizaines de kilos est victime du braconnage. La faute aux vertus soi-disant aphrodisiaques qui lui sont attribuées en Asie équivaut à ce fruit de se négocier plusieurs centaines d'euros le kilo sur le marché noir. La peur du prédateur renforce la cohésion chez les guppies, selon une étude réalisée par des scientifiques britanniques et caribéens. Ces petits poissons tropicaux développent des liens sociaux plus forts lorsqu'ils font face aux prédateurs. Les chercheurs ont aussi constaté que si en présence d'un danger, les guppies tentent à se réunir, les groupes formés sont plus petits qu'à la normale. Ce serait le fruit d'un compromis entre les avantages d'un grand groupe et ceux liés à la qualité des liens entre les individus du groupe. Et puis l'instinct, une plongée dans l'inconnu, c'est l'intitulé d'une conférence qui aura lieu le 9 février prochain à l'Université Paris-Dauphine. Elle réunira Luc Jacquet, le réalisateur du film L'Empereur, la compositrice-interprète Annika-Anne de Forest, le biologiste Gilles Boeuf, le physicien Joël Chevrier et la psychanalyste Florence Lautredoux. L'événement est gratuit, il est ouvert à tous à condition de vous inscrire, et vous retrouvez toutes les informations sur ce rendez-vous autour de l'instinct sur la page Facebook de La Tête au Carré. Ce sera donc le 9 février, la semaine prochaine.